Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Excision au Mali, traduction, santé et loi, faut-il maintenir ou abandonner la pratique? Sur le thème du Grand Dialogue de ce soir, ce dernier temps, la pratique de l'excision suscite de nombreux débats dans les communautés et sur les réseaux sociaux entre ceux qui souhaitent son maintien au nom de la tradition et ceux qui souhaitent son abandon au nom de la santé, de droit, des filles et de la protection de l'enfant. L'excision apporte-t-elle un quelconque bénéfice aux filles ou entraîne-t-elle principalement des conséquences néfastes? Qu'est dit aujourd'hui le droit malien et comment concilier tradition, santé, droit à défi et réalité sociale? On en saura davantage dans ce grand dialogue avec nos deux invités, toutes deux femmes, Madame Dao Welere Kodjo, assistante médicale, la chef de l'unité prise en charge au programme national pour l'abandon de violences basées sur le genre, Alima Djoba Togola, actrice et femme leader pour l'abandon de l'excision. À la présentation, je suis Mirana Kilo Meiga. Nous avons invité deux autres, notamment un imam et un acteur de légitimité traditionnelle engagé pour le maintien de l'excision, ont désisté à la dernière minute.
Le Grand Dialogue.
Bienvenue à toutes et à tous dans ce débat consacré à une question qui touche à la fois la tradition, la santé, au droit des filles et à la loi, l'excision au Mali. Madame Daou, en une phrase, pourquoi cette question est-elle aujourd'hui importante au Mali?
Merci beaucoup pour la parole donnée. Cette question est importante pour le Mali depuis des années. C'est tout récemment que les gens ont commencé à faire des polémiques par rapport à la question, puisque c'est une volonté de l'État depuis. Et la preuve est que l'État a mis en place en 2001 un programme dédié à la lutte contre l'excision au Mali appelé PNLE, qui a été érigé en PNVBG en 2019. Donc, ce n'est pas une question de débat d'aujourd'hui.
Quand vous dites PLVLV, ça veut dire
quoi? PNVBG, c'est un programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre.
D'accord.
Voilà, donc, c'est ce que je peux dire, que ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui.
Alors, quelle est, selon vous, la principale idée reçue qu'il faut corriger sur l'excision?
La principale idée qu'il faut corriger sur l'excision, il faut qu'on sache que l'excision, ce n'est pas une question de femmes seulement. C'est une question vraiment de communauté. C'est une question de santé publique. Et aussi, c'est une question aussi de la survie. Vraiment, quand on parle de la survie, c'est les femmes qui donnent naissance. Et toutes les sciences ont montré qu'elle est nuisible pour la santé de la femme. Que ce soit lors de sa vie de fécondité, que ce soit lors de l'accouchement, que ce soit dans son foyer, dans l'accomplissement de ses devoirs conjugaux. Donc, ce n'est pas seulement une question de femmes, c'est une question de survie et c'est une question de santé publique.
Alima Djoba Togola, les réseaux sociaux est inondé aujourd'hui par la question de l'excision. L'excision est-elle uniquement une question de tradition?
Je pense plutôt que c'est une question de mentalité. Mais bien avant, bonsoir à tous et à toutes, et merci de m'avoir invitée. L'excision aujourd'hui est plutôt une question de mentalité, parce que quand on écoute certains traditionnalistes, ils sont là à dire que non, ça ne relève pas automatiquement de la tradition. Ils avaient aussi menti sur la religion. Il y a des religieux qui sont sortis pour dire que non, ça n'a rien à voir avec la religion. Donc je pense que c'est une mentalité qui est ancrée en nous, et voilà.
Donc, vous parlez on peut dire donc quelle place occupe aujourd'hui la pression familiale et la communauté?
Plutôt la pression sociale, parce que nous vivons dans une société où les gens ont cette facilité de suivre sans apporter d'analyse personnelle, sans se dire pourquoi je dois forcément faire comme les autres. C'est vrai qu'il y a des choses, nous vivons dans une société, pour vivre en harmonie, il y a des règles qu'il faut suivre. Mais à un moment donné, on ne peut pas tout prendre de cette tradition, comme on ne peut pas tout laisser. Il faut juste se réajuster, il faut trouver le juste milieu. Il faut se dire que avant, nos ancêtres faisaient ça. Aujourd'hui, est-ce que c'est favorable pour nous? Est-ce que c'est favorable pour notre environnement, pour ces jeunes filles-là? Si c'est non, on laisse. Il faut réajuster, il faut trouver le juste milieu et on n'est pas contre la tradition.
Est-ce que certaines familles craignent qu'une fille non excisée soit rejetée?
Rejeter, je ne suis pas sûre, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont pour les filles non excisées, parce qu'on cause avec eux, on les entend. Donc, rejeter, je ne suis pas sûre. Voilà, elles auront peut-être peur du regard de d'autres familles, du jugement, etc. Mais je suis sûre que même les hommes qui sont contre l'excision aujourd'hui, au fond d'eux, ils sont pour nous, quoi.
Madame Daou, quel lien est entre l'excision, mariage, virginité et responsabilité?
Merci beaucoup pour cette question. L'excision a un très grand rôle à jouer dans les mariages. Puisque quand on va parler du rôle dans les mariages, il faut qu'on parle des conséquences qui engendrent l'excision à long terme. Donc parmi les conséquences,
Parler des conséquences plutôt.
Parce qu'on ne peut pas parler de l'excision, du rôle de l'excision dans le mariage sans parler de ses conséquences. Parce que c'est ses conséquences qui vont vraiment impacter le mariage de la femme. Voilà. Si vous avez d'autres questions...
La peur du regard, comme Ali m'a dit, la peur du regard des autres est-elle parfois plus importante que la conviction personnelle des parents?
Oui, la peur du regard, ça dépend de la résilience de tout un chacun. Si vous-même vous êtes convaincu qu'il y a des conséquences néfastes pour la santé de la fille et de la femme, pourquoi avoir peur du regard des autres? Ça dépend de votre propre conviction et aussi de ton niveau de résilience par rapport aux différentes pressions sociales. Parce que soyons sûrs, c'est pas facile d'abandonner des siècles d'années les gens ont pratiqué. Et un jour, on va te dire de laisser ce que tu parles parce qu'il y a des conséquences. Donc, c'est pas facile. Et il faut avoir un niveau de résilience très fort pour vraiment un peu échapper à la pression sociale et considérer les conséquences néfastes sur la santé de la femme et de la fille.
Les jeunes générations ont-elles une perception différente de cette pratique?
Oui, les jeunes générations ont une perception différente, puisque les données de l'EDES le montrent. Par rapport à l'EDES, il y a 80% des femmes de 15 à 49 ans qui ont subi de l'excision. Mais cette année, avec l'EDES 2023-2024, il y a une baisse de 3%. On était à 89%, on est venu à 80%. C'est que la jeune génération commence à comprendre vraiment les conséquences qui se tournent autour de la pratique de l'excision, d'où la diminution du taux de l'excision chez les femmes âgées de 15 à 49 ans.
Alima, peut-on réellement parler de choix lorsque une pratique est imposée à une enfant qui n'a pas la capacité de décider elle-même?
Non, mais pas du tout. C'est pourquoi quand certains parlent de choix, ça me fait rire. Dans ce cas, pourquoi ne pas laisser le choix aux enfants jusqu'à l'âge adulte? Pourquoi toucher à son intégrité physique? Si c'est une question de choix, les enfants à cet âge ne peuvent pas choisir. Ils n'ont ni la maturité cognitive, ils n'ont ni la capacité juridique de donner un consentement libre et éclairé. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de choix. Parce que les gens confondent entre rôle de parent dans l'éducation et l'intégrité physique d'un être humain. L'intégrité physique d'une personne ne fait pas partie du patrimoine familial ou culturel. C'est ce que j'ai dit. Si c'était que ça, il allait avoir plus que l'excision, hein, parce qu'un père de famille pouvait tout simplement dire que non, c'est mon enfant, je vais lui couper un doigt, c'est mon enfant, je vais lui couper un pied, parce que c'est mon enfant, c'est ton enfant, mais il y a des limites, tu as des rôles vis-à-vis de cet enfant, tu as des devoirs, mais cet enfant a également des droits. Donc si c'est une question de choix, qu'on laisse l'enfant choisir lui-même.
Alors à quel moment la tradition doit s'arrêter lorsqu'elle porte atteinte à l'intégrité physique?
La tradition doit réellement s'arrêter. Moi, je n'en suis pas convaincue. Hein. J'ai dit que c'est une question de mentalité. Il faut seulement sensibiliser. Et petit à petit, les choses vont se décanter de façon naturelle. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire la vérité. Une loi contre l'excision de façon claire, ce n'est pas pour demain. Il ne faut pas se leurrer. Ça ne va pas arriver comme un claquement de doigts. Non, ce n'est pas possible. Donc, il faut beaucoup de sensibilisation. Et il ne faut pas montrer qu'on est contre la tradition. Moi, je ne suis pas contre la tradition. Je suis ceux qui défendent la tradition quand ça les arrange. Je suis contre ces gens-là. Ils parlent de tradition. Ils viennent garer sa 4x4. Ils ne viennent pas à dos d'âne. Est-ce qu'ils voyagent à dos d'âne? Non. Il est dans une voiture qui n'a pas été fabriquée par ses ancêtres.
Et je rappelle qu'on a invité une légitimité traditionnelle, mais qui, à la dernière minute, a désisté aussi. Un imam qui, à la dernière minute, a désisté. Alors, continuez votre raisonnement.
Donc, il pouvait venir, parce que moi, je suis pour ça. On ne va pas s'insulter. Ce débat ne va pas nous diviser. On est là, c'est le Mali. Chacun va donner son point de vue. Mais dire que c'est la tradition quand ça vous arrange, et être contre cette même tradition quand ça ne vous arrange pas, moi je ne suis pas dans ça, tu choisis. Je suis pour une tradition qui évolue, je suis pour une tradition qui s'adapte, je suis pour une tradition. Oui. Alors, j'ai perdu le mot, c'est pas grave, ça va venir. D'accord. Je suis pour une tradition qui prend en compte son environnement.
Vous avez parlé tout à l'heure, vous parlez plutôt de mentalité. Alors, si cette mentalité doit changer, qui doit prendre la décision? Les parents, la communauté ou la fille elle-même?
Nous tous. La fille à cet âge ne peut rien prendre comme décision. C'est-à-dire la sensibilisation, c'est vous, c'est moi, c'est madame, c'est tout le monde en réalité. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, j'ai eu des messages des hommes qui m'ont dit « Halima, il y a des images que tu as postées la dernière fois, malgré qu'elles étaient choquantes, ça m'a donné une idée réelle de ce qui se passe dans le corps de la femme. Donc plus de filles excisées chez moi. » Moi, j'ai gagné, hein. Même si c'est un seul homme que je suis parvenue à convaincre, ça va. Lui, il va dire à son ami, il ne faut pas faire parce que... Son ami va dire à un autre, il ne faut pas faire parce que... Ainsi de suite.
D'accord.
C'est comme ça.
Madame Dao, beaucoup de personnes disent, nous avons été excisées, nos mères l'ont été, nos grands-mères aussi. Pourquoi faudrait-il arrêter aujourd'hui? Comment répondez-vous à cet argument?
Oui. L'argument que je répondais à ces questions par rapport à la tradition pour dire que nous sommes venus trouver que c'était ça, nous aussi on va continuer vers là. Je pense que c'est une question de communication, c'est une question de compréhension. C'est pour cela, c'est les femmes qui vivent, hein, c'est les femmes qui vivent vraiment, c'est elles qui connaissent. C'est pour cela qu'il y a un comité interafricain qui est là pour lutter contre les pratiques néfastes à la santé de la femme et de la fille. Et cette comité a réfléchi, voir, c'est vrai, nous avons des traditions qui sont positives pour la santé. Mais les traditions qui sont néfastes pour la santé, il faut essayer vraiment de l'écarter. Ça nous diminue pas, en fait. Dire que j'ai abandonné une pratique vraiment qui est là pour nuire à ma santé, je le laisse parce que si je le laisse... Si je prends un exemple, je suis un dogon, est-ce que ça te sort d'être dogon? Non. Il faut qu'on réfléchisse un jour et qu'on prenne une décision de voir, parce que le monde évolue. Il faut évoluer aussi avec vraiment la science aussi.
Alors, que disent les données scientifiques quand vous parlez de la science?
Oui, les données scientifiques, j'avais un peu ébauché là-dessus par rapport aux données. Où on a l'EDS 2018, on avait 89% des femmes maliennes étaient excisées. Et en 2023, les dernières données, on a dit 80%. Donc il y a une diminution. Et que là, je salue tous les partenaires ici qui donnent de la bonne information à la communauté pour pouvoir essayer d'abandonner cette pratique qui est vraiment néfaste à la santé de la femme.
Alors, quelles sont les complications immédiates?
Les complications immédiates qu'on peut citer, c'est d'abord la douleur atroce, puisque ça se fait dans les conditions où il n'y a pas d'anesthésie. Pas d'anesthésie, donc la douleur, elle est atroce, jusqu'à ce qu'il y a certaines même qui, à cause de la douleur, vont faire un choc. Il y a aussi l'hémorragie qui est là. L'hémorragie qui est là, parce que il faut reconnaître que c'est une partie qui est quand même avec beaucoup de terminaisons. Donc cette hémorragie peut aller jusqu'à l'anémie, même jusqu'à la mort. Ça, c'est immédiatement les conséquences. Et si la pratique, souvent, c'est avec le même instrument qu'on le fait, et là, ça peut aller. Et les enfants peuvent être contaminés par le VIH-SIDA, à l'hépatite et même le tétanos. Vous voyez. Voilà les conséquences immédiates qu'on peut vraiment citer. Et la pire des choses, c'est la mort de la petite fille, ce qui est souvent vraiment fréquent. Désolé, mais...
Alors, quel peut être l'impact sur les règles, les rapports sexuels et l'accouchement plus tard?
Oui, l'accouchement plus tard, c'est d'abord... Vous savez que si la femme est excisée, ça laisse de la cicatrice. Et lors de l'accouchement, excusez-moi, ce n'est pas facile de le dire, il y a l'organe génitaux de la femme doit s'étirer pour laisser passer le fœtus. Et donc, la cicatrisation va diminuer l'élasticité vraiment du tissu des organes génitaux qui va entraîner des déchirures chez la femme lors de l'accouchement. Et souvent, s'il n'y a pas un personnel qualifié pour aider cette femme, c'est de la catastrophe. Ça peut même retenir le fœtus. Ça peut être, comme la femme peut faire un travail prolongé, c'est-à-dire faire plusieurs heures que prévu dans son travail. Et aussi, ça peut retarder la venue du fœtus. C'est-à-dire l'enfant, la dilatation est là complète, mais l'enfant fait des va-et-vient parce qu'il n'y a pas de porte de sortie. Souvent, l'une des conséquences aussi, c'est vraiment l'infibulation où ils vont coller la sortie du fœtus. Et là, il faut un agent de santé qualifié pour pouvoir décoller et faire sortir le fœtus.
D'accord.
Ça, c'est lors de l'accouchement.
Une dernière question avant de donner la parole à Alima. Peut-on avoir des complications même lorsque l'excision est pratiquée dans de bonnes conditions d'hygiène?
L'excision, que ce soit dans les conditions d'hygiène ou pas, ça a toujours des conséquences néfastes pour la santé. Il n'y a pas une manière bonne de faire l'excision. L'excision, elle est vraiment néfaste, que ça soit... C'est pour ça que l'État, depuis 1999, a fait circuler une lettre circulaire qui interdit l'excision dans les structures hospitalières. Si ça avait vraiment des bénéfices, l'État n'allait pas interdire. L'État allait laisser les gens de santé pratiquer dans les conditions d'hygiène l'excision dans les centres de santé. Mais au lieu de ça, en 1999, le ministère de la Santé a dit non. Elle n'est pas bonne pour la santé de la femme et de la fille. Donc, il ne faut pas que les gens de santé le pratiquent dans les centres de santé.
Tout simplement.
Voilà. Donc, en gros, il n'y a pas une manière bonne de faire l'excision.
Alima, certaines personnes disent que si l'excision doit avoir lieu, mieux vaut qu'elle soit pratiquée par un professionnel de santé dans un environnement propre et avec du matériel stérile. Est-ce une solution?
Si c'était une solution, l'État n'allait pas faire passer cette lettre circulaire. Hein. Ça veut dire que l'État même est d'accord que ce n'est pas une solution. Donc, ce n'est pas une solution tout simplement. Mais bon, après, l'État laisse le choix à tout un chacun. Et là, vous vous débrouillez quoi? Nous, on a dit que dans les centres de santé, ça ne va pas se faire. Maintenant, si tu trouves que tu peux le faire et que c'est ton choix et que c'est ton enfant, bah, vas-y. Hein.
Malgré les risques médicaux évoqués par Mme Dao, certaines familles continuent de considérer l'excision comme une protection ou une étape nécessaire dans l'éducation d'une fille. Pourquoi ces croyances résistent-elles au message de santé publique?
Parce que c'est une croyance, parce que c'est une mentalité. Moi, je me dis que si c'est un moment crucial dans la vie d'une jeune fille, il faut qu'elle soit forcément excisée pour qu'elle puisse avoir des bonnes, une éducation parfaite. Franchement, je ne sais pas quoi dire.
Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'informations? Les gens sont-ils informés?
Ils sont informés, matin, midi, soir. Mais après, ils disent que c'est leur tradition. Donc, à ce stade-là, qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut juste sensibiliser. Voilà, mais ta sexualité a quoi à voir avec l'excision? Pourquoi on doit diminuer l'envie chez la femme et se dire maintenant que un homme, il a le droit de prendre jusqu'à 4 femmes? Il peut même aller voir ailleurs. Pas tous les hommes, bien sûr. Mais si l'envie est une maladie dans ces cas, qui doit être soigné? La femme ou l'homme?
Alors, quel rôle les mères jouent-elles dans la perpétuation de la pratique?
Bon, je pense qu'on joue le rôle principal, hein, Nous, les mamans, nous, les grandes sœurs, nous, les mamies, on joue vraiment le rôle principal dans cette histoire. Parce que j'ai l'impression que nous sommes les gardiennes de certaines traditions chez nous, vraiment à revoir. Ta maman ou ta grand-mère va dire que moi, je l'ai subi. Je n'ai pas eu de complications. Sauf que même si à l'époque, elle avait des complications, à qui le dire? Parce que le sexe, déjà, était tabou. Parler même d'une infection, une simple infection, était tabou. Règles douloureuses, parler de ça, c'était tabou. Donc, même si mamie, elle avait mal, elle préférait en mourir que d'en parler. Il n'y avait pas de médecine, la science n'était pas autant développée. Donc, oui, elle va dire que moi, je n'ai rien eu. Peut-être qu'elle a eu des choses, mais comment le prouver?
Vous êtes une femme qui lutte contre la pratique sur les réseaux sociaux. Peut-on aujourd'hui lutter contre l'excision tout en respectant les femmes qui ont elles-mêmes subi cette pratique et qui peuvent continuer à y croire?
Bon, si tu as déjà été victime de l'excision, je pense que là, tu n'as plus le choix. Hein. Toi, d'un point de vue un peu orgueilleux, tu vas dire que oui, non, je défends. Parce que tout simplement, tu as été victime.
Mais elle quel message défend... vous avez pour ces femmes, pour les convaincre, pour leur montrer A plus B que l'excision a des conséquences sur l'enfant?
C'est à elle de nous donner des messages de sensibilisation, de faire des messages de sensibilisation, de faire passer des messages de sensibilisation, je veux dire. C'est à elle de le faire. Parce qu'elles savent par quoi elles sont passées. Elles sont mieux placées pour défendre, pour lutter contre l'excision. Elles savent, il ne faut pas qu'elles restent là parce que la société dit que, parce qu'il y a le regard des autres, parce que non. Il faut qu'elles sortent pour dire aux gens, voici les réelles conséquences de l'excision sur la femme. Elles sont mieux placées.
D'accord. Alors, que prévoit le nouveau code pénal adopté en 2024 par rapport à la pratique de l'excision au Mali?
Le nouveau code pénal de 2024 ne se prononce pas sur l'excision au Mali. Nous avons un avant-projet de loi qui a été élaboré depuis 2017 pour pouvoir réprimer, prise en charge et prévenir les cas de toutes les violences basées sur le genre, y compris les mutilations génitales féminines excision. Mais le nouveau code pénal ne se prononce pas sur l'excision.
Mais il y a une loi?
Il n'y a pas une loi spécifique pour réprimer le MGF au Mali. Mais nous avons un avant-projet de loi où l'excision est inscrite dedans.
Et que dit cet avant-projet de loi?
Cet avant-projet de loi veut que dans les jours à venir, on ait au moins une loi qui réprime l'excision au Mali. Donc nous sommes là-dessus, sur la sensibilisation, le plaidoyer, la mobilisation sociale, pour que les hautes autorités vraiment prennent une loi dans les années à venir pour pouvoir réprimer les actes de MGF au Mali.
Alors, une personne qui pratique l'excision peut-elle aujourd'hui être poursuivie au Mali?
Je dirais que oui, parce que il faut reconnaître l'effort aussi de la justice par rapport à ça.
Mais sur quelle base juridique?
Il y a la jurisprudence qui est là. Je ne suis pas juriste pour bien me prononcer là-dessus. Quand même, il faut saluer les efforts de la justice ici, dans ces plateaux. Il y a beaucoup des acteurs de la justice vraiment qui arrivent à vraiment réprimer certains actes à travers la jurisprudence. Mais il n'y a pas une loi spécifique pour dire qu'il faut qu'un auteur de MGF doit être puni d'un tas d'années de prison, il n'y a pas cette loi spécifique qui est là.
D'accord.
Mais le Mali a signé beaucoup de conventions de façon internationale ou bien régionale au niveau de l'Afrique pour pouvoir protéger les femmes et les filles de la violence. Et nous, au niveau national, il y a notre constitution qui est là, qui le dit à son premier article, hein, que l'être humain, on ne doit pas quand même torturer quelqu'un. Hein? Voilà. Et tous les Maliens naissent libres et égaux. Voilà.
Selon plusieurs informations, plusieurs témoignages, les pays voisins comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Niger disposent des dispositifs juridiques contre les MGF. Quelles sont les conséquences pour le Mali lorsque des familles traversent les frontières pour faire excuser leurs filles dans notre pays?
Bon, malheureusement, c'est le cas qu'on voit souvent, hein, surtout dans les villes transfrontalières. Il y a le fait que dans ces différents pays, l'acte est réprimé. Donc, les gens peuvent venir au Mali pour le faire.
Vous avez
mais un... nous, on n'a pas... tout de suite, je n'ai pas de documentation, mais il y a, on a eu à avoir des cas. Et sur ça, nous, on vraiment, on se focalise surtout sur l'information. Parce qu'il faut donner de la bonne information pour que la personne puisse prendre une bonne décision. Il faut reconnaître qu'il y a certaines qui sont là, qui vivent avec les conséquences des MGF, qui ne savent pas que c'est leur petit acte de décision qui les a vraiment amenés à vivre ce qu'ils vivent. Et là, on a beaucoup à faire. Ça, c'est l'information, donner de la bonne information pour que les gens prennent de la bonne décision par rapport à leur santé.
Voilà. Alima, une famille venant d'un pays où la pratique est interdite peut-elle faire exciser un enfant au Mali sans risque juridique dans son pays d'origine?
Tant qu'on n'est pas au courant, ça reste un fait comme ça, banal. Mais moi, je suis sûre que le jour où on va les attraper, ils vont répondre. Ça, c'est clair, ils vont répondre face à une juridiction compétente. Mmh. Voilà.
Nous arrivons à la question centrale de notre débat. Faut-il maintenir ou abandonner l'excision au Mali?
Il faut abandonner.
Pourquoi?
Avec tout ce qu'on vient de citer, monsieur, vous me demandez pourquoi. Il faut abandonner tout simplement ceux qui ne veulent pas, ceux qui sont pour l'excision. Il faut qu'ils viennent nous expliquer les avantages. Moi, je veux une liste d'avantages, c'est-à-dire me dire que Alima, voilà, après une fille, quand une fois excisée, voici la liste des avantages. Une fois que j'ai la liste des avantages, je vais voir, je ferai moi en ce moment un autre choix. Mais pour le moment, vu que de notre côté, moi, la femme qui subit ça, il n'y a pas d'avantage chez moi, il faut abandonner cette pratique.
D'accord. Alima parle davantage. Vous êtes médecin assistante. Alors, l'excision apporte-t-elle un quelconque bénéfice aux filles?
Moi, je ne dirais pas que l'excision apporte un bénéfice. Je suis du programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre. Je rappelle ici, c'est un programme de l'État, mis en place par l'État. Je l'ai dit depuis mes premiers propos, que c'est en 2001 que l'État a mis en place le PNLE, qui était le programme national de lutte contre l'excision, qui a été érigé en programme national VBG pour quand même élargir son champ d'action. Nous sommes pour l'abandon des MGF au Mali. C'est notre mission principale. Notre mission principale, c'est vraiment donner la bonne information, aller plaider auprès de la communauté, auprès des décideurs. Et aussi, n'oublions pas, il y a la prise en charge. Les femmes qui sont victimes de ces séquelles d'excision, nous les prenons aussi en charge. Nous disons toujours non à l'excision parce que nous sommes là, notre mission principale, qu'un jour au Mali, on ne parle plus d'excision. C'est notre mission principale.
Alors, si nous voulons véritablement faire reculer l'excision, quelle doit être la priorité? Soit informer les parents, protéger les filles, former les professionnels de santé ou renforcer le soin aux survivants?
Oui, ça, quand même, il y a tous ces aspects qui sont là. Et dans la matière de lutte contre l'excision, il n'y a pas un acteur principal qui est là. Nous sommes tous des acteurs. Chacun a son rôle à jouer dans l'abandon de ces MGF. C'est pour cela que nous formons des enseignants. Souvent, on essaie même d'aller dans les écoles pour faire des leçons modèles pour que les enfants sachent qu'est-ce que c'est que l'excision. On forme aussi les gens de la police, la gendarmerie, la justice, pour leur montrer vraiment ce que les femmes vivent. Ce n'est pas facile. Souvent, quand vous voyez certaines images, c'est vraiment choquant. C'est vraiment choquant. Donc, nous sommes... C'est notre mission principale, vraiment, d'abandonner les MGF ici, un jour au Mali.
Alima, quelle est la mesure concrète que vous voudriez voir mise en œuvre dès demain pour faire évoluer la situation?
La liberté d'expression, la force des réseaux sociaux, pour le moment, c'est ça. Et moi, personnellement, enfin, je ne voudrais pas que le gouvernement se mêle de quoi que ce soit pour le moment. En tout cas, pas cette semaine, parce qu'on est à fond. Il y a des gens qui sont facilement manipulables et il y a des gens qui peuvent se cacher derrière cette lutte. Le gouvernement est entre le marteau et l'enclume. Ils ne peuvent pas, ils peuvent pas dire que je suis d'accord, ils ne peuvent pas dire que je suis contre. Pour le moment, à chaud comme ça, il faut nous laisser, on va se débattre bien sur les réseaux sociaux. Et après, le gouvernement doit prendre une loi pour dire non à l'excision. Voilà. Pour le moment, les réseaux sociaux s'occupent très bien de ceux qui sont pour. Hein. On est bon, hein? Donc voilà.
D'accord. Une dernière phrase pour chacune de vous. Mm. Que voulez-vous que les parents retiennent de ce débat?
Que tout évolue, que scientifiquement, médicalement, et tout évolue, quoi. Ou qu'à femme, qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, leurs enfants ont besoin de plus de sécurité, plus d'amour que ça, que cette pratique. Vraiment, l'éducation, on en a besoin, le suivi, tout ce qui est positif pour l'enfant aujourd'hui. Et on n'est pas contre la culture. Moi, je ne suis pas... Tout le monde sait que je suis une femme de culture. Voilà, mais une culture est réajustée.
D'accord. Alors, Madame Dao, que voulez-vous que les parents retiennent de ce débat que nous animons sur l'excision au Mali?
Ok. Moi, ce que je veux que les parents retiennent, c'est de notre devoir en tant que parents de protéger nos enfants. De protéger nos enfants. Il ne faut pas qu'un jour, nos enfants nous disent « Pourquoi maman m'a fait ça ? Pourquoi papa m'a fait ça ?» Donc, il est le devoir de tout un chacun de vraiment protéger la santé de nos enfants.
D'accord. Voilà. Merci. C'est le droit de tout un chacun, de tout un parent de protéger les enfants. C'est sur ce mot que prend fin ce grand dialogue qui porte sur l'excision au Mali. Tradition, santé et loi, faut-il maintenir ou abandonner la pratique? Nos deux intervenants sont unanimes qu'il faut abandonner la pratique. Nous étions avec Madame Dao Welore Kodjo, assistante médicale, chef de l'unité prise en charge au programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre. Alima Djoba Togola, actrice et femme leader pour l'abandon de l'excision. Nous avons invité un imam et un acteur de légitimité traditionnelle. Ce dernier, à la dernière minute de cette émission, ont désisté. À la présentation, je suis Rana Kilomaiga. Merci de l'avoir suivi.